Chapitre 12e. On accédait au logement particulier d'Hélène par un escalier dont la porte au rez-de-chaussée s'ouvrait sur la rue. La veille de la rentrée, un dimanche matin, en descendant pour ouvrir cette porte, Hélène remarqua que, dans la nuit, on l'avait couverte d'inscriptions à la craie. Se reculant un peu, elle lut ces inscriptions qui toutes étaient semblables, Courtemer, père et fils. Elle resta un moment sans comprendre, se demandant comment ces noms se trouvaient là. Tout à coup la lumière se fit et la honte l'étouffa. Ainsi se réalisaient les menaces de Mademoiselle de la Buissonnière. Mais il n'était pas dans la nature d'Hélène de s'abandonner et de rester écrasée sous les coups qui la frappaient. Si on avait écrit cette inscription sur sa porte, ce n'était pas seulement pour qu'elle la vît, c'était surtout pour que d'autres la vissent et qu'elle fût lue par tous ceux qui viendraient à la mairie où devait se faire ce jour-là une élection au conseil général. Quelle bonne matière à curiosité et à bavardage. Courtemer, père et fils, qu'est-ce que c'est que ça? Elle devait donc, au plus vite, effacer cette inscription. Peut-être, à cette heure matinale, n'avait-elle pas encore été remarquée. Elle entra dans la classe et, prenant l'éponge du tableau noir, elle revint à la porte. Mais il y avait du monde qui allait et venait sur la place et, devant la boutique du perruquier, se tenait assis sur des bancs ou debout adossé à la devanture, une vingtaine d'hommes qui attendaient leur tour de barbe. Par cela seul qu'elle enlevait cette inscription, n'était-ce pas montré qu'elle en était émue et qu'elle craignait qu'on la vît? Elle hésita un moment, mais réflexion faite, elle pensa que le mieux encore était de ne pas la laisser, et se cachant autant que possible dans son allée en tournant le dos à la place, elle se mit à l'effacer. Et tout en frottant l'éponge contre le bois, elle se demandait ce qu'elle répondrait si quelqu'un, en passant, l'interrogeait pour savoir ce qu'elle faisait là. Heureusement, cela ne dura que peu de temps et personne ne lui adressa la parole. Comme, après avoir fini, elle regardait sur la place, elle vit venir le maire, qui arrivait pour organiser le bureau électoral, et elle sortit pour le saluer. « Eh bien, mademoiselle, dit M. Hamet, c'est demain notre grand jour. Espérons que votre rentrée de classe sera bonne, malgré la défection de Pelledieu et de Fillette, vous savez. » Bonhomme a compté cela. Elle tournait le dos à la maison d'école et le maire lui faisait face. « Qu'est-ce que c'est que cela ? » s'écria-t-il tout à coup. Elle se retourna pour voir ce qu'il désignait de la main. Et sur le mur de la maison d'école nouvellement peint en jaune, elle lut, répétée 10 fois, 20 fois, en grosses lettres rouges, bleues, noires, l'inscription qu'elle venait d'effacer sur sa porte, « Courtemer, père et fils ». Hélène n'avait pas pu ne pas laisser échapper une exclamation à demi étouffée. « Et quoi donc ? » demanda le maire. « C'est infamie. » Et tout de suite, elle raconta la visite de Mademoiselle de la Buissonnière. En parlant, les larmes de la honte lui montaient aux yeux et la confusion lui serrait la gorge. Comme elle achevait son récit, Bonneau les aborda. Aussitôt le maire lui montra les inscriptions et lui rapporta ce qu'Hélène venait de lui raconter. « Nous allons faire enlever cela, » dit l'adjoint. « Pas du tout, » répliqua vivement le maire. Il faut que tout le monde voie de quelles armes se servent nos adversaires. C'est une heureuse chance qui nous arrive. Cela, bien expliqué, va donner 50 voix à notre candidat qu'il n'aurait pas eu. Et moi ? Ne put s'empêcher de dire Hélène à mi-voix. Qu'importe pour vous, ma chère demoiselle, tous ceux à l'estime desquels vous pouvez tenir sauront bien que c'est une infamie. Et les autres ? N'en prenez pas souci. C'était facile à dire au maire, mais non facile à faire pour Hélène. Mais si humiliée qu'elle fût, que pouvait-elle? Le maire eut un mot qui la paralysa. « Vous êtes chargé de la police, mon cher Bonneau. En cette qualité, je vous rends responsable de la conservation de ces inscriptions. Si quelqu'un voulait les effacer, qu'on lui déclare procès-verbal pour dégradation à un monument public. » Sa honte devenant un élément d'intérêt politique, elle n'avait qu'à se taire, ce qu'elle fit. Ainsi c'étaient là les armes dont on allait se servir contre elle. Elles étaient d'autant plus dangereuses, d'autant plus terrible qu'elle ne pouvait pas se défendre. Que répondrait-elle lorsque devant elle, sans même lui parler, mais avec un sourire ailleurs, on prononcerait ce nom de Courtemer? Pourrait-elle empêcher la rougeur de lui monter au front si tout à coup dans la rue elle se trouvait en face de cette inscription « Courtemer, père et fils » Ce nom seul allait faire de sa vie un enfer dans ce pays, car elle ne pouvait rien dire, rien expliquer. Pieds et mains liés, bouche close, elle était à la merci de ceux qui voudraient s'amuser d'elle ou la martyriser. Elle était innocente, elle n'avait rien à se reprocher, pas même une coquetterie, pas même une imprudence. À qui ferait-on croire cela ? Pendant qu'elle pensait ainsi tristement dans sa chambre, on entendit un brouhaha sur la place, les électeurs qui venaient voter. Mais elle était trop troublée, trop préoccupée pour se laisser distraire par ces bruits et par les éclats de voix, les rires, les murmures qui, de temps en temps, arrivaient à ses oreilles. À un certain moment, sa grand-mère entra dans sa chambre. « Sais-tu ce qu'ont tous ces gens ? » demanda-t-elle. « Ils s'arrêtent devant l'école, puis ils se mettent à rire comme s'ils disaient quelque chose de drôle. Ils répètent le nom de monsieur de Courtemer. Courtemer père et fils. Est-ce que monsieur de Courtemer est candidat ?»«
Je ne sais pas, » dit Hélène étouffant.
Et alors, ces murmures, jusqu'alors confus pour elle, lui arrivèrent distincts, ou tout au moins, elle crut les entendre distinctement, comprenant ou plutôt devinant toutes sortes de choses qui, peut-être, n'étaient réellement pas dites. Le temps s'écoula, la messe sonna, et alors Hélène, ramenée à la réalité des choses, se demanda si elle allait oser entrer dans l'église. Sa première pensée fut de rester chez elle, mais c'était là une lâcheté, et puis, après tout le tapage qui venait de se faire, on devait l'attendre et sûrement on interpréterait son absence contre elle. Elle s'habilla. Quand la messe tinta, elle sortit avec sa grand-mère. Des groupes d'électeurs se tenaient devant la mairie, discutant, riant, faisant un tapage assourdissant. Quand elle parut, les bouches se turent et toutes les têtes se tournèrent de son côté. Elle ne vit pas les yeux qui la dévisageaient, mais elle les sentit, quoiqu'elle tînt les siens baissés, marchant vite. Un grand corps qui se plaça devant elle l'arrêta, c'était Pelledieu. « Vous savez, mademoiselle, dit-il en lui tendant la main, que ça ne vous enlève pas l'estime de personne. Au contraire, la seule chose que n'y a, c'est qu'ils ne le porteront pas en paradis s'ils y vont. » Sans doute c'était là une bonne parole, mais non suffisante cependant pour faire l'apaisement dans son cœur bouleversé. Elles entrèrent dans l'église. Heureusement pour Hélène, elle avait un nuage devant les yeux et elle marchait sans rien voir, en hallucinée. Une fois installée à sa place, elle se plongea dans son paroissien et ce fut seulement en reconnaissant la voix du curé qu'elle sut que c'était lui qui officiait. Au prône, ce fut le vicaire qui monta en chaire, car l'abbé Well aimait peu prêcher et il se faisait, aussi souvent que possible, remplacer par son vicaire. Hélène n'avait pas relevé la tête, mais au premier mot, elle tressaillit car elle venait de comprendre qu'elle allait faire le sujet de ce sermon. Et de fait, elle ne se trompait pas. C'est de l'instruction à donner aux enfants que je vais vous entretenir aujourd'hui, mes chers frères. C'était ainsi qu'avait commencé l'abbé Périchard. Et il avait été bien évident qu'à la veille de la rentrée des classes, alors que la lutte commençait entre l'école catholique et l'école laïque, il n'allait pas, lui, l'homme de lutte, se renfermer dans un sermon purement théorique. Sur ce thème, il continua, montrant que l'instruction sans la religion est plus nuisible qu'utile, car elle ne peut faire que des orgueilleux. C'était une chose de mode de soutenir que l'instruction conduisait à tout. En réalité, elle ne conduisait qu'à l'erreur, si elle n'était soutenue par l'enseignement des vérités éternelles. Qui pouvait donner cet enseignement, si ce n'est ceux qui en étaient nourris, et qui chaque jour pratiquaient ce qu'ils enseignaient avec une foi ardente? Comment confier ses enfants à celles qui vivent dans l'erreur? Quelles garanties offrent-elles? D'où viennent-elles? Que sont-elles? Il s'était élevé un bruit de pieds et de chaises. On se tournait pour voir Hélène, et tous les yeux se ramassaient sur elle. Mais l'abbé Périchard avait trompé la curiosité qu'il avait si vivement surexcitée. Au lieu de développer ses personnalités comme on s'y attendait, il avait tourné court, s'étendant seulement dans un parallèle entre les institutrices qui offrent toutes les garanties aussi bien au point de vue de l'instruction, ce qui est la petite affaire, qu'au point de vue de la foi et de la moralité, ce qui est la grande, et celle qui n'en offre d'aucune sorte. Puis là-dessus, il était descendu de chair, la messe s'était achevée.